Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les autres voies de la presse, nous recevons Machko. Salut Machko.
Salut, salut.
Alors Machko, toi tu viens nous parler du journal Mouet, le journal dubitatif, quoique journal niçois à l'origine, mais qui avec son numéro 59, donc paru là en janvier, passe à une diffusion nationale et avec un nouveau format. Alors déjà ma première question, mais c'est qu'est-ce qui vous a pris justement de sortir un peu de votre enclave niçoise et de partir sur une diffusion comme ça où maintenant on vous trouve dans tous les kiosques?
Eh bien parce que nous sommes complètement fous. Donc on va voir si ça va payer, mais après pour nous c'était une sorte d'accomplissement quoi. C'est juste que c'est un projet qui initialement vient notamment d'un tout petit fanzine qu'on avait créé avec mon pote Gide de Mouet aussi. Et là maintenant on se retrouve avec un vrai journal comme on dit, qui sort dans le papier chaud et qui sort des rotatives. Et donc pour nous voilà, c'était une conclusion logique et nécessaire de notre travail. Et avec aussi l'idée quand même, comme on le dit dans le communiqué qu'on a sorti à ce moment-là, c'est de toucher un plus large public dans un contexte où Bolloré est en train de racheter massivement des points de presse. Et pas que Bolloré, hein. Enfin, tous les milliardaires d'extrême droite sont en train de, millionnaires d'extrême droite sont en train de faire campagne pour leur idéologie. Ça nous paraît important, d'occuper le terrain. Et donc, pour nous, ça passe par faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire du papier. Parce qu'on pense qu'il y a toujours un intérêt pour le papier et que c'est par là que ça va se passer.
Et du coup, comment ça se passe quand on veut être diffusé dans les kiosques au niveau national? Est-ce que pour l'instant, vous étiez diffusé, entre guillemets, au niveau national, mais par le bouche à oreille, les copains, les commandes, les abonnements? Comment ça se passe? C'est un contrat? Faut s'organiser? Comment est-ce qu'on arrive à être maintenant présent dans tous les kiosques?
Et nous, on a réussi à bénéficier des conseils avisés des camarades du syndicat de la presse Papareil, qui là-dessus, c'est quand même une bonne boîte à outils, parce que ça permet de faire un échange de pratiques. Et en fait, c'est relativement pas si compliqué. Il faut juste trouver un imprimeur qui soit pas trop cher. Mais quand on passe du numérique, l'impression numérique qui est quand même qui est plus quali, mais qui est beaucoup plus cher. Quand on passe en rotatif, du coup, on économise sur les frais de production. Et on peut imprimer du coup beaucoup plus pour moins cher. Et donc il faut contacter un imprimeur qui soit en mesure de faire des rotatives, sachant qu'il n'y en a pas des masses, il y en a beaucoup confirmés en France. Et il faut aussi qu'il soit un imprimeur qui soit indépendant et pas dépendant. Par exemple, il y a une imprimerie en Provence qui a été rachetée par Rodolphe Sadé, qui est un millionnaire d'extrême droite parmi d'autres, un milliardaire je crois. Et ensuite, il faut tout simplement contacter un routeur, il y en a deux en France. Et donc, on a contacté, nous, la messagerie de Lyonnaise de Presse, MLP, qui diffuse. Et en fait, par exemple, nous, on diffuse à 15 000 exemplaires. Et si on en vend 15%, on rembourse la diffusion. Et au-delà, du coup, on commence à se faire un peu d'argent. Donc, c'est très précaire, mais ça peut le faire. Si les gens nous soutiennent en kiosque, à voir. On aura les premières stades de vente d'ici quelques temps, là.
Et avec 15 000 exemplaires, on peut être présent dans tous les kiosques répartis sur toute la France?
Oui, c'est soit tu peux demander à la boîte de diffusion de gérer ça, donc ce qu'on a fait pour le premier, vu qu'on ne connaît pas encore les outils, mais après c'est le journal qui peut gérer lui-même les endroits où il veut être diffusé, tu peux repérer après 2 mois du coup les endroits où ça a bien vendu et en mettre plus. Voilà, donc tu peux tout doser sur le territoire. Donc là, on est présent sur 5700 points de vente.
Ouais, c'est pas mal, en effet. Ça couvre en effet une grande partie du territoire. Bon, moi, je vous ai cherché dans plusieurs endroits pour voir un peu, en effet, la diffusion. Donc, je vous ai trouvé dans le kiosque à côté de chez moi, là, à Colmar. Je vous ai pas trouvé, par contre, dans un supermarché où il y a de la presse qui est présente, hein, plusieurs titres, dont un peu de presse indépendante. Mais le Mouet n'y était pas.
Eh bien, c'est fort triste. Mais il y a eu des problèmes d'approvisionnement à cause de la neige aussi.
Dis-moi, pour ce numéro 59 du Mouet, vous avez également changé de format. Pourquoi? Est-ce que le format revu A4 ne correspondait pas aux besoins d'une diffusion dans les kiosques?
C'est une nécessité parce qu'il y a un format quand même, il y a des formats spécifiques à avoir dans la, dans l'impression rotative, mais c'est aussi un plaisir pour avoir plus de place, pouvoir plus aérer la mise en page et pouvoir mettre plus d'illustrations et mettre plus de contenu, quoi. Et puis aussi, il y a quand même la volonté de pouvoir tenir, entre guillemets, un vrai journal dans les mains et donc d'avoir ce format tabloïd qui a un côté satisfaisant.
Vous avez travaillé de la même manière que pour les précédents numéros, ou est-ce que c'est également un nouveau défi en termes de ligne éditoriale et de sommaire?
En termes de ligne éditoriale, bah, le truc c'est qu'il faut avant le truc c'est qu'il faut faire en sorte, enfin, 15 000 exemplaires de plaire, disons au plus grand nombre, même si on n'a pas pour objectif de plaire à tout le monde, au contraire, on a plutôt ambition de déplaire. Mais l'idée c'est quand même d'avoir quand même une ligne éditoriale plus généraliste, disons, donc moins insister sur l'actu niçoise, sur lequel on insiste quand même, vu qu'on reste un journal basé à Nice. Donc quand on parle d'actualité, c'est souvent celle de la ville dans laquelle on vit. Mais voilà, beaucoup insister sur l'international, qui nous paraît important. Donc il y a des reportages au Brésil, en Norvège et en Ukraine. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'apporter vraiment une plus-value pour les gens qui ne sont pas à Nice et que tout le monde puisse s'y reconnaître, quoi.
Et donc ce premier numéro en une, il y a un titre pour une révolution des opprimés. C'est quoi? C'est un résumé un petit peu de cette ligne éditoriale de ce numéro 59?
Bah après, oui. Le truc, c'est que nous. Attends, je laisse passer le tram.
Les autres voix de la presse, c'est la meilleure émission de toute la vie.
Oui, bah pour le coup, c'est un résumé de l'éditorial depuis le début. On a un journal anarchiste, on assume d'être anarchiste, et pour nous, on est contre toutes les formes d'oppression. Et c'est comme ça qu'on sort le travail de journaliste. C'est, comme disait Albert Londres, mettre la plume dans la plaie, et mettre la plume contre toutes les oppressions. Et en ce moment, il y a quand même eu beaucoup de choses qui sont extrêmement négatives à l'échelle internationale, avec l'enlèvement du président vénézuélien, avec Trump qui pète complètement les plombs, avec ce qui se passe un peu partout. Donc nous, l'idée, c'est de montrer que il n'y a pas de fatalité et il y a une possibilité pour les peuples de lutter, de s'autodéterminer. Et on voulait aussi donner quand même une note, une touche d'optimisme et d'utopie dans ce contexte, quoi.
Alors, comment est-ce que vous avez construit votre sommaire? En effet, bon, bah déjà sur la première page, en une, hein, l'édito, c'est de Guillaume Meurice. C'est un pote à vous? Il écrivait déjà régulièrement dans Mouet?
Non, il n'écrivait pas régulièrement, mais c'est une connaissance sympathique qui, pour le coup, Guillaume, il est très sympa. Il n'hésite pas vraiment à mettre de sa personne pour soutenir les médias indépendants. Donc, il nous a amicalement autorisé. Il nous a du coup fait don de sa plume pour l'édito, et on le remercie.
Voilà, sur un édito qui s'adresse aux habitants et aux habitantes du futur.
Oui, d'un futur qu'il imagine plutôt sombre, mais qu'on espère écrire de façon plus optimiste, disons, plus utopique.
Alors je tourne un petit peu les pages, hein, quand même du journal. Moi j'adore les formats tabloïds de toute manière, quoi. C'est vrai que je préfère ça au format revue. Et donc les deux premières pages, alors là on est à Nice, hein, avec Eric et Christian. Donc vous parlez un petit peu là des potentos locaux, c'est ça?
Oui, bah écoute, là c'est bientôt les municipales, et en plus on a quand même parmi les deux pires espèces de politiciens de droite qui existent, Estrosi et Ciotti. Donc on ne pouvait pas ne pas en parler. Et surtout, mettre les choses au clair pour ceux qui seraient tentés de voter pour eux sur la quantité invraisemblable de casseroles qu'ils ont au cul, quoi.
C'est ça, on se retrouve là face à un florilège un petit peu de toutes ces casseroles d'Estrosi et de Ciotti.
C'est ça. Ben, il n'y a pas que ça, heureusement, mais il y a aussi d'autres spécialités locales, moins basées sur la corruption. Et on parlera du coup dans le prochain numéro. Enfin, dans tous les numéros d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi quand même un truc, c'est que. On reste un journal niçois et on aime beaucoup insister sur ce qu'il y a au-delà de la carte postale que les gens veulent bien voir dans cette ville, quoi. Donc le côté carnavalesque, le côté festif, les réseaux d'aide aux migrants, les réseaux de solidarité qui existent dans cette région, qui vaut mieux que ce que Estrosi et Ciotti veulent bien en laisser en voir.
Oui, d'ailleurs, vous avez des articles, un article en particulier justement sur le soutien aux migrants, avec un article de Cédric Héroux de la ferme Emmaüs Roya. Tu peux nous parler un petit peu de cette ferme et de Cédric Héroux?
Bah, Cédric, lui, pour le coup, c'est un ami de la rédaction qui contribue souvent d'une façon ou d'une autre et à nos pages et à nos luttes. Et donc, on est nombreux à la rédaction à faire partie d'Emmaüs Roya, et qui a lancé là, du coup, enfin, Emmaüs Roya, c'est avant tout, oui, c'est avant tout une ferme qui accueille des personnes en situation de précarité. Et depuis quelques temps, c'est devenu aussi un resto paysan qui donc transforme les produits de la ferme pour les proposer et donne et forme les compagnons des compagnons. C'est une communauté Emmaüs au travail de restauration. Et voilà, donc ça permet d'avoir toute une boucle en circuit court qui permet voilà de créer un lieu qui soit inclusif, safe, où tout le monde puisse se sentir bienvenu et recréer du politique dans un endroit qui en a bien besoin, puisque la Roya, c'est une vallée qui malheureusement n'est pas, même si c'est une vallée où il y a beaucoup de réseaux de solidarité, elle est malheureusement pas à l'abri des pensées d'extrême droite. Il y a une députée d'extrême droite qui est présente. Et voilà, donc pour les prochaines élections, on espère que ce lieu permettra aux gens de se rencontrer et de se rendre compte qu'il n'y a pas de fatalité dans le fascisme.
La terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune pour y faire une fortune. Je veux aller sur Pluton pour y chanter mes chansons. Je veux aller sur la lune. Je veux m'évader loin de cette planète. Je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent, ou jouer de la guitare au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques. Déjà je rêve au jour où céleste troubadour, j'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Oh, que vais-je découvrir? Les cieux vont-ils s'ouvrir? Pourrais-je y pénétrer, tel autrefois Orphée? Aurais-je atteint le paradis où les anges sont logés? Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune.
C'est la meilleure émission de toute la vie, du monde entier.
Merci papa.
Merci papa.
En continuant de feuilleter justement le mouet, l'article suivant s'intitule « Voler la parole aux oubliés ». Donc là, vous abordez, vous présentez une compagnie niçoise, la compagnie Passage Obligé. Il s'agit de quoi exactement ?
Passage Obligé, il s'agit d'une autre association dont la plupart des gens de la rédaction font partie. Donc, je suis par ailleurs, par exemple, le trésorier, et dont le président est Edwin, donc notre directeur de publication. Et c'est une compagnie qui a pour but de, donc avec les principaux animateurs sont Jules, et qui a pour but de faire de l'insertion aux personnes en situation de précarité, notamment des personnes en situation d'addiction, de faire de l'insertion, de la rencontre à travers le jeu artistique, à travers le théâtre, la poésie, la musique, et voilà.
Et voilà, et la suite, on continue de feuilleter un petit peu hein, ce numéro 59 de Mouet. Donc là, après, on aborde le dossier, donc ce dossier justement un peu sur les luttes, hein, les peuples en lutte. Donc là, toi, tu es l'auteur d'un long article hein, sur le Brésil et un peuple indigène en exil, les Varaos, on dit.
Les Warao.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi parle ton article? Tu as d'ailleurs séjourné, il me semble, quelque temps là, au Brésil, en Amérique du Sud.
Oui, j'y ai été 2 mois, je suis de retour depuis quelques semaines là. Eh ben le prince. Attends. Je laisse passer le tram.
Ouah! Voilà des voices!
Ah, ok. Parce que moi, il me semblait qu'ils étaient assez bruyants.
Les autres voix de la presse, une émission réalisée par mon papa.
Ah, ok. Donc, oui, j'ai séjourné pendant un mois au Brésil et ensuite pendant un autre mois en Équateur, où j'ai déjà habité un an. Et donc, le but quand je suis allé au Brésil, c'était bon, une partie de couvrir la COP 30, enfin, de couvrir la contre-COP 30 surtout, donc tous les mouvements anarchistes, indigènes, etc., qui contestaient la tenue de ce rassemblement, enfin, de cet événement qui était très critiqué localement. Et donc, j'en ai fait un article qui est également dans ce numéro. Et j'ai travaillé également, du coup, sur une ethnie vénézuélienne. Donc là, on connaît la situation actuellement au Venezuela, qui était déjà très compliquée avant le coup d'État de Trump. Et c'est une ethnie, donc, qui a dû s'exiler et qui vit dans des conditions de précarité assez difficiles à Belém, du coup, aux portes de l'Amazonie. Et qui a dû renoncer totalement à son mode de vie traditionnel et qui tente de s'adapter en passant des bouches de l'Orénoque, donc le delta où il vivait traditionnellement. Au bidonville d'une grande ville amazonienne. Donc voilà, un peu compliqué. Et je voulais m'intéresser du coup à cette histoire.
Et donc un long article, hein, assez fouillé, donc reportage in situ, et accompagné d'énormément justement d'illustrations sous forme de bandes dessinées. On ne trouvait pas autant de bandes dessinées d'ailleurs dans les précédents numéros de Mouet, il me semble.
Il y avait déjà les chroniques bandes dessinées de Coyote, vu que l'illustratrice qui racontait en BD sous forme de chronique sa vie de jeune apprenti dans le maraîchage. Mais effectivement, on a envie de développer d'autres formats. Donc maintenant qu'on a plus de place, il y a vraiment l'envie de mettre plus de photos, plus d'illustrations, plus de bandes dessinées. Que vraiment ce soit un objet agréable à l'œil et agréable à feuilleter, quoi.
Énormément de photos également, là je continue à tourner les pages, hein. J'arrive sur le reportage Yalta, jumelle meurtrie de Nice, une ville sous contrôle russe. Donc là c'est que vous parlez quoi, vous abordez la communauté qui est à Nice ?
Non, enfin du coup l'idée c'est encore une fois de parler de Nice, mais c'est parce que Yalta est jumelée, les villes sont jumelées, donc voilà l'idée c'était de se pencher sur cette sœur jumelle meurtrie. Comme indique le titre, et de se pencher voilà, sur les résistances contre l'offensive russe qui ont lieu là-bas.
Et parmi les résistances, la suite, on trouve donc un article également sur un front écologique norvégien, les Samis, un peuple en lutte. Comment s'est rédigé cet article ? Vous avez eu quelqu'un qui est allé en reportage sur place, ou c'est quelqu'un de Norvège ou des Samis qui vous a proposé ce texte ?
Et non, c'est plutôt notre cher photoreporter préféré, qui est basé au Liban, mais qui fait des reportages un peu partout, et qui est pigiste à l'international, ce qui est, je tiens à le préciser, une condition extrêmement précaire, c'est très difficile d'en vivre. Donc on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir dans la rédaction. Et donc au moment où il est parti travailler en Norvège, il nous a fait ce superbe reportage sur un peuple en lutte contre l'accaparement des terres.
L'accaparement des terres par l'industrie, par le gouvernement ou par Trump, vu qu'en ce moment il a envie d'accaparer un peu toutes les terres dans le monde.
Non, Trump n'est pas encore sur ce coup-là. Mais oui, c'est toujours les mêmes causes, hein, l'extractivisme, la volonté de vider la terre de ses ressources. On en parle dans le reportage. J'en parle dans le reportage au Brésil. C'est l'objet aussi du reportage en Norvège. C'est l'objet partout en fait. Il y a un moment, enfin, c'était une conclusion des peuples indigènes pendant la COP 30, c'était de dire faut arrêter les énergies fossiles, stop pétrole. Mais pour le moment, on n'y est pas encore.
Et toujours donc dans ce numéro 59, hein, je me répète, mais disponible du coup en kiosque dans toute la France, hein, le numéro 59 de Mouet. Il y a un article, une page Anarchive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le but, le fondement de cette page Anarchive?
Eh bien, la pensée anarchiste est toujours malheureusement trop peu connue et souvent même un peu décriée parce que le mot anarchie fait peur. Et nous, c'est un terme dont on se revendique, c'est une pensée dont on se revendique, nous sommes anarchistes. Et donc, on a envie de faire découvrir des petites pépites de la pensée anarchiste, des textes méconnus qui sont en accès libre un peu partout et qu'on a envie de faire découvrir. Donc là, pour le coup, c'est Peter Gelderloos, un penseur anarchiste contemporain que j'ai eu la chance d'en rencontrer au Brésil, qui est vraiment une personne adorable. Et qui a écrit notamment beaucoup sur la non-violence et sur comment la non-violence, selon lui, protège l'État et couvre les oppressions. Donc voilà, c'est une pensée assez vindicative et assez intéressante et assez peu connue sur la critique de la non-violence en tant qu'action politique. Mais là, du coup, il parle plutôt d'écologie et de comment l'anarchie peut tous nous sauver.
Tous nous sauver, justement, également du Rassemblement National. Après, il y a un article, justement, qui suit avec une révélation. Les électeurs du Rassemblement National sont des racistes.
Et oui, ce sont des gros racistes. C'est incroyable, mais c'est la sociologie qui le dit. C'est un entretien avec Félicien Fleury, qui est un sociologue, ouais, qui en fait a travaillé pendant 6 ans dans mes souvenirs, 6 ans dans le sud de la France sur l'électorat RN. Et en fait, ce qu'il a vu sur le terrain contredit un truc qu'on a beaucoup tendance à entendre, c'est-à-dire que les gens sont pauvres et du coup ils sont pauvres, du coup ils se trompent de colère et du coup ils votent Rassemblement National. Ce qu'il dit, c'est que en fait les affects racistes sont primordiaux dans le vote RN. C'est pas juste parce que les gens sont pauvres, c'est pas juste parce que il y a vraiment une pensée raciste qui est à l'origine, qui est constitutive d'une grande partie du socle de l'électorat du Rassemblement National.
Je continue de feuilleter hein, le journal. Hein. J'ai pas regardé il y a combien, il y a 32 pages en tout, donc dans ce format tabloïd. Donc il y a des brèves également, une brève sur un camp de vacances pour jeunes palestiniens à Nice. Comment ça se passe du coup? Il y a des subventions pour faire venir des jeunes palestiniens, les sortir de l'horreur de la guerre?
Non, il y a une cagnotte. Donc je conseille de se rendre sur Instagram pour en savoir plus et pour soutenir cette action.
Page suivante, la dalle numéro 5, Nico bouffe en prison. De qu'est-ce que vous abordez là dans cet article?
L'alimentation en prison, qui est un thème, bon, pour la déconne, on part de l'incarcération ô combien injuste de notre cher ex-président qui a passé 21 jours en prison. Et qui s'était plaint dans son livre que j'ai lu, du reste. Hein, j'ai lu le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, un grand moment. Et il se plaint de l'alimentation qu'il a eue. L'idée, c'est de revenir là-dessus et bon, sur l'indécence qu'il y a de voir cette ultra riche se lamenter de ses maigres conditions de vie en prison, sachant que les conditions de vie en prison en France ont toujours été lamentables. C'est l'occasion de revenir sur un bouquin de Mauben, qui est paru aux éditions du Bout de la Ville, qui est quelqu'un qui est en peine de longue durée et qui a écrit un livre de recettes de cuisine et qui a été puni du coup par l'administration pénitentiaire pour avoir écrit ce livre.
Je continue à tourner, on arrive à la fin. Et donc, comme dans les précédents numéros du Mouet, la lutteuse du Mouet, donc là, c'est vous consacrer un article justement à une femme en lutte?
Oui. Enfin, là, pour le coup, là, c'est Collectif de femmes en lutte. Du coup, c'est un reportage en deux parties sur les personnes sourdes, malentendantes, etc., qui tentent de faire connaître du coup cette situation via le travail artistique.
Donc, en gros, là, on a à peu près fait le tour du sommaire de ce journal, donc du numéro 59, hein, janvier-février 2026. Donc, le nouveau numéro du Mouet qui est maintenant disponible dans toute la France. Donc, on peut que conseiller aux personnes de courir dans tous les kiosques et de se l'arracher.
Et il faut absolument le soutenir, car comme je le disais, on a besoin d'un soutien en kiosque pour asseoir la faisabilité de cette aventure folle. Donc voilà, il faut nous soutenir en kiosque, il faut acheter aussi nos camarades du syndicat La Presse Papareille qui sont eux également en diffusion nationale, comme La Brèche, L'Âge de Fer, Le Fakir, voilà. On commence à être une petite bande du syndicat de La Presse Papareille à occuper les kiosques, et c'est vraiment vital de défendre cette presse papier indépendante.
Oui, et puis il faut se montrer, il faut être là en opposition justement à toute la presse d'extrême droite qui a plutôt un peu pignon sur rue en ce moment.
Notamment dans les relais, puisque rappelons quand même que les relais ont été rachetés par Bolloré. Donc il peut diffuser autant qu'il veut sa petite presse d'extrême droite. Mais nous aussi maintenant nous sommes présents en relais Bolloré, pour combien de temps je ne sais pas, mais en tous les cas pour nous c'est important d'être là où les gens peuvent nous lire et nous acheter quoi.
Et donc je tiens quand même à signaler, hein, parce que bon, on n'allait pas passer à côté, mais les autres voix de la presse remercient Mouet de nous avoir également accueillis, puisqu'on a rédigé un article justement sur une histoire de la presse indépendante à Nancy.
Mais oui, c'est vrai que tu as un conflit d'intérêt.
J'ai un conflit d'intérêt, exactement. On s'est occupé de parler un peu de cette presse indépendante, de son histoire, car il faut savoir que la presse indépendante, elle a existé, elle continue d'exister et qu'il faut continuer à la soutenir. Machko, merci beaucoup. On espère longue vie donc, à Mouet dans les kiosques. Le prochain numéro, ce sera le numéro 60, donc c'est prévu pour le mois de mars.
Ce sera mars-avril, tout à fait.
Donc le Mouet numéro 59, hein, c'est à 5 euros, prix libre à la criée. Donc ça veut dire qu'on peut vous en commander plusieurs exemplaires et puis aller les vendre à la criée sur les marchés, sur tous les événements auxquels on peut participer?
Tout à fait, sur les marchés, les manifestations, c'est possible.
Ok, donc pour vous le commander, c'est quoi? Il y a un site internet par lequel il faut passer?
Il y a un site internet, mouet.org, tout simplement.
Tout simplement. Eh bien, Machko, merci beaucoup et merci à toute l'équipe du Mouet, justement, pour ce numéro 59 disponible dans les kiosques.
Merci à toi.
We'll be right back. Dégenrons l'agriculture, c'est le titre du dossier du numéro 510 de Transrural Initiative. Transrural Initiative, la revue des territoires ruraux. Ce dossier poursuit le recensement des analyses et actions menées par les structures de développement agricole sur les inégalités de genre et la place des femmes en agriculture. Il s'inspire des actions menées dans le cadre du projet Dégenrons, piloté par Réseau CIVAM, en croisant des analyses et des retours d'expériences d'initiatives, notamment en matière d'installation, de formation et de sensibilisation. L'Otech Journal, le journal pour inspirer les bifurcations écologiques. Le numéro 23 janvier-février 2026 contient un dossier sur Handicraft. Inspirer les bifurcations écologiques, des conseils pratiques pour intégrer l'écologie dans la vie de tous les jours, adopter un mode de vie éco-responsable, conseils et astuces. Voici vers quoi pointait l'ancien slogan de l'Otech Journal pour une écologie du quotidien. On l'aimait bien, mais il charriait un discours d'écologie des petits pas et faisait un peu tract électoral. Alors, on l'a réorienté vers le mot « inspiration ». Le sommaire de ce numéro 23 donc de l'Otech Journal, un reportage sur les labos vivants de l'habitat frugal. Le dossier donc Handicraft, Handicap et Low-Tech. Regarde ailleurs, cuir sans feu pour vivre sans peur sous le soleil du Tchad. Profil, éco. La low-tech à l'épreuve de l'urgence. Un tuto, le puelito de l'antiquité au rocket stove dans une butte à gaz. Parabole réquisitoire contre les éoliennes industrielles et droit de réponse. Design, less is more, fauteuil à co-construire. Enfin, en cuisine, protéines, un futur esquisse. Le low-tech journal, donc le numéro 23 janvier-février 2026. Silence, écologie alternative, non-violence, le numéro 549 février 2026, avec un gros dossier, partager la terre. Le Salon international de l'agriculture se tiendra à Paris fin février, réunissant les plus gros lobbies de l'agro-industrie sous le feu des projecteurs médiatiques. On entendra sûrement moins parler des rencontres intercollectives qui se tiendront une semaine plus tard dans le village de Corps, en Isère, pour imaginer un autre modèle agricole. Suicide de paysans et paysannes, exploitation de travailleurs, travailleuses, étrangers, étrangères, effondrement de la paysannerie et de la biodiversité, explosion des cancers et des maladies chroniques, accaparement de l'eau et de la terre. Les ravages du complexe agro-industriel sont connus. Face à ces constats, de plus en plus de collectifs se forment pour reprendre des terres, les partager et expérimenter d'autres manières de produire. Rendre l'installation paysanne plus accessible, mutualiser l'investissement initial et le travail, se partager les astreintes de l'élevage, se dégager du temps libre, sortir l'agriculture d'un modèle capitaliste. Nombreuses sont les raisons qui poussent des paysans paysannes à s'installer en collectif. Alors que les fermes deviennent quasiment inaccessibles et qu'un quart des agriculteurs et agricultrices va partir à la retraite d'ici 2030, Silence a voulu mettre en lumière cette constellation d'initiatives paysannes souvent méconnues. C'est pourquoi, ce mois-ci, Silence publie un nouveau livre aux éditions Le Passager Clandestin intitulé « Terres partagées, des fermes collectives pour sortir de l'agriculture ». Ce dossier, paru dans le numéro 549 de Silence, dévoile en exclusivité quelques exemples de collectifs inspirants, en espérant qu'il ouvre de nouveaux imaginaires paysans et solidaires. C'était les autres voix de la presse avec Machko pour le journal Mouet, maintenant diffusé en kiosque. À la semaine prochaine, d'ici là. On va s'interroger ton stylo.